en séance. Une émission de la rédaction de Canal Académie.
L'Europe fut en 2004 le thème de travail principal de l'Académie des sciences morales et politiques. Nous avons écouté tout à l'heure M. Alain Lamassoure s'exprimant devant l'Académie des sciences morales et politiques le lundi 13 décembre 2004. Alain Lamassoure, député européen, venu présenter une communication intitulée L'évolution des institutions européennes et le traité constitutionnel. Le lundi 20 décembre de l'année 2004, c'est monsieur le chancelier de l'Institut de France, Pierre Messmer, qui s'exprimait devant les membres de l'Académie des sciences morales et politiques et le public, puisque les séances du lundi après-midi 15h sont publiques au palais de l'Institut de France Conti à Paris. Monsieur Pierre Messmer, donc chancelier de l'Institut, venu le 20 décembre présenter la communication intitulée La nouvelle problématique de la construction européenne. Nous rejoignons tout de suite la grande salle des séances.
Il y a un an, Monsieur le Président, vous m'aviez demandé de présenter une conclusion après les communications sur l'Europe que nous avons entendues depuis le début de cette année. Mission évidemment impossible. Comment conclure ? C'est-à-dire, si nous nous référons au dictionnaire de l'Académie française, fixer définitivement. Comment fixer définitivement un dossier qui est en perpétuelle évolution ? La construction européenne est un chantier en cours dont les plans ne sont pas et ne peuvent pas être définitivement arrêtés. Je vous avais donc proposé, Monsieur le Président, et vous avez bien voulu accepter, de limiter mon exposé à une problématique. Quels sont, en cette fin d'année 2004, les principaux problèmes auxquels est confrontée l'Union européenne ? Le premier est évidemment celui de la ratification du traité constitutionnel. Le traité, signé à Rome le 29 octobre dernier par les représentants des 25 États membres, est maintenant soumis à ratification. Et la question à cette occasion est posée, quelle procédure choisir ? Ratification parlementaire ou référendaire ? 9 États ont déjà choisi le vote parlementaire, certains y étant obligés par leur constitution nationale. 11 ont choisi la voie référendaire et 5, à ma connaissance, hésitent encore. Le référendum est certainement le meilleur moyen démocratique pour légitimer une constitution, mais il comporte des risques. En France, par exemple, le président de la République a sagement choisi la voie référendaire, tout en sachant que les opposants à la Constitution européenne pourraient être rejoints dans leur vote négatif par les adversaires du gouvernement, suivant une habitude bien établie dans notre pays. Quoi qu'il en soit, la ratification unanime du traité constitutionnel est loin d'être acquise. Il est possible qu'un ou plusieurs des 25 pays membres refusent leur approbation. Nos voisins anglais, qui depuis des siècles vivent très bien sans constitution, diraient que je fais ici un understatement. L'unanimité étant nécessaire et l'exclusion d'un pays, surtout s'il est grand, pratiquement impossible, il faudrait reprendre les négociations, ce qui renvoie à plusieurs années la ratification et par conséquent la possibilité de passer à une véritable union politique. Ce n'est pas une catastrophe, l'union ayant été créée et s'étant développé sans constitution depuis sa naissance. Le second problème est celui de l'élargissement. L'Europe est une presqu'île. La mer lui a donné des limites naturelles au nord, à l'ouest et au sud. Elle n'en a pas à l'est, même si de Gaulle a évoqué l'Europe de l'Atlantique à l'Oural. Jusqu'à maintenant, les élargissements successifs qui ont porté l'Union de 6 à 25 membres n'ont pas soulevé d'objection de principe, pas plus que n'en soulève l'adhésion prochaine de la Roumanie et de la Bulgarie, ni celle plus lointaine des autres pays balkaniques. C'est l'Europe reconstruite après la chute du rideau de fer. Un jour se posera peut-être la question de l'Ukraine, mais dès aujourd'hui, la procédure concernant la Turquie est engagée et elle oppose dans l'opinion publique et aussi dans notre compagnie, nous l'avons constaté, partisans et adversaires de son entrée dans l'Union. Si l'on s'en tient à la géographie physique, la réponse est simple. Constantinople, aujourd'hui Istanbul, est en Europe, mais l'Anatolie, qui couvre 95% de l'espace turc, est en Asie. La géographie humaine propose la même réponse. L'Europe est un continent culturel, affirme notre confrère, le cardinal Ratzinger. L'histoire, qu'on invoque souvent, et curieusement jamais dans le même sens, l'histoire qu'on invoque souvent est celle de conquérants turcs qui ont pendant des siècles dominé et colonisé l'Europe centrale et orientale, en maîtres habiles, toujours brutaux et parfois sanguinaires. Les souvenirs qu'ils ont laissés ne plaident pas en leur faveur, et de nos jours, les 4 millions d'immigrés turcs établis dans les pays de l'Union forment des collectivités bien intégrées dans l'économie, mais culturellement inassimilables. Quant à l'économie, l'Europe et la Turquie, malgré sa situation financière parfois difficile, peuvent s'associer. Elles l'ont déjà fait par l'accord d'Ankara conclu en octobre 1963, et leur union douanière est effective depuis 1995, sans d'ailleurs, personne ne le dit, que les échanges aient sensiblement augmenté. Le principal argument des partisans de l'entrée de la Turquie est politique. L'intérêt de l'Europe est évidemment d'avoir de bonnes relations avec les pays d'islam, et en particulier ceux du Maghreb et du Moyen-Orient. Les Turcs sont musulmans, mais leur État laïque est capable, pense-t-on, de respecter les conditions de Copenhague et il s'y efforce. Une Turquie européenne pourrait servir d'exemple aux pays arabes et être un pont entre l'Orient et l'Occident. C'est un pari, mais il est risqué. Si l'islamisme l'emportait en Turquie, le pont serait ouvert aux envahisseurs. D'autant plus que ces nouvelles frontières de l'Europe, si on y intégrait la Turquie, nous donneraient pour voisins la Syrie, l'Irak, l'Iran, quelques républiques turcophones d'Asie centrale, pays peu tolérants, turbulents et même potentiellement dangereux. Selon Clémenceau, la Turquie, c'est, disait-il, une armée et une dette. L'armée turque est le seul garant de la laïcité fragile de son pays, et l'Europe est bien imprudente en lui demandant, au nom de la démocratie, de rentrer dans ses casernes. Parce qu'elles sont délicates et difficiles, les négociations avec le gouvernement turc seront longues. Le président Chirac, dont on connaît l'opinion favorable à la Turquie, prévoit 10 ou 15 ans, on peut imaginer la réaction des Turcs, peuple fier, en cas d'échec, ou pire, d'un refus vraisemblable de ratification. Dans le cas contraire, il faut s'attendre à la candidature des pays du Caucase, Géorgie, Arménie, et pourquoi pas du Liban. Tous peuvent invoquer des titres sérieux. « Quand on passe les bornes, disait le sapeur Camembert, que Georges Pompidou citait quelquefois, quand on passe les bornes, il n'y a plus de limite. » Plus sérieusement, je dirais que l'un des problèmes les plus graves posés à l'Union européenne est celui de la contradiction dans laquelle l'Union s'enfonce, entre contradiction entre une croissance extérieure incessante et, semble-t-il, illimitée, et une consolidation intérieure nécessaire, mais de plus en plus malaisée. Et la politique étrangère et de sécurité en est un exemple. La seule politique extérieure dans laquelle l'Union européenne possède des compétences propres et bien définies est celle du commerce international. Pour le reste, il a fallu attendre le traité de Maastricht, entré en vigueur en 1993, pour que soit décidée une politique étrangère et de sécurité commune, connue sous l'abréviation assez peu agréable à l'oreille de PESC, à laquelle le traité d'Amsterdam a donné un contenu en 1999. Un haut représentant pour la politique étrangère et de sécurité fut alors créé, et le projet de constitution prévoit d'instituer un ministre des Affaires étrangères de l'Union qui aurait autorité sur un service européen pour l'action extérieure et sur les délégations de l'Union dans les pays tiers. À de rares exceptions près, et d'une portée d'ailleurs limitée, l'Union n'a jamais eu de politique étrangère commune. La crise irakienne l'a souligné assez cruellement pour qu'il soit inutile d'insister. Le problème tient au fait que les Américains et les Russes préfèrent les négociations bilatérales qui leur permettent de rallier à leur politique au moins certains États européens. Il y a donc peu de chances pour que l'Union soit capable, à court ou moyen terme, de s'accorder sur une politique étrangère, et la nomination d'un ministre n'y changera rien du tout. Quant à la politique de défense, bras armé de la politique étrangère, elle n'est pas moins problématique. En accord avec notre président, je m'y arrêterai pendant quelques minutes, car aucune communication n'en a traité. Jusqu'à l'implosion de l'Union soviétique, la défense de l'Europe face à l'Est a été assurée grâce aux États-Unis et sous leur autorité par le moyen de l'OTAN. La disparition, au moins temporaire, de la menace n'a pas été suivie par la mise en sommeil de l'organisation. D'une part, les pays d'Europe voisins de la Russie craignent le réveil de ses ambitions impériales et, conscients de leur faiblesse, recherchent la protection des Américains. Ceux-ci ont accepté volontiers, satisfaits d'étendre leur influence, et, d'autre part, ils s'efforcent d'engager l'OTAN à leur service dans des missions nouvelles, non prévues par le traité qui l'a fondé. S'ils n'y parviennent pas, la coopération reste possible. Les accords dits de Berlin permettent à l'OTAN de mettre des moyens à la disposition de l'Union européenne pour des opérations décidées par celle-ci et approuvées par les États-Unis. Tel est le cas en Bosnie depuis quelques jours. Il est intéressant de constater qu'en 1999, 6 ans après Maastricht, donc après la décision de principe, le Conseil européen tenta à Cologne une décision. Cette décision était que l'Union doit disposer d'une capacité d'action autonome soutenue par des forces militaires crédibles. Et 6 mois plus tard, le même Conseil établit ce qu'il est convenu d'appeler l'objectif global, une force européenne de réaction rapide, capable d'engager dans un délai de 60 jours 60 000 hommes et de les soutenir pendant 1 an au moins. En attendant la réalisation de cet ambitieux programme, on vient de décider, il y a quelques semaines, plus modestement, la création avant 2007 de 13 groupes de combat de 1500 hommes chacun, capables d'intervenir n'importe où dans le monde en moins de 15 jours sous le drapeau de l'Union. Cette décision s'inspire de l'opération baptisée Artemis, conduite en juin 2003 dans la province de l'Iturie, à l'est de la République du Congo. À vrai dire, dans l'opération Artemis, 80% des effectifs étaient français. Dans le domaine de l'armement, qui est un domaine important et, je dirais, urgent, la création d'une agence européenne de défense a été enfin décidée. Ouverte à l'ensemble des 25 États membres, elle devrait fonctionner à partir de 2005 avec un modeste budget de 20 millions d'euros et sous l'autorité du haut représentant de l'Union européenne pour la politique étrangère et de sécurité commune. L'agence est destinée à remplacer quelques machines peu connues sauf des spécialistes, et qui ont été remarquables par leur inefficacité, comme le WEAG, Western European Armament Group, ou l'OCAR, Organisation conjointe en matière d'armement. Ils sont morts sans avoir jamais rien fait. N'ayons pas d'illusions. Source d'économie et d'efficacité, l'Europe de l'armement ne peut être portée que par quelques grands pays disposant de centres de recherche, de moyens d'essai et surtout de puissantes industries spécialisées dans l'électronique, l'aéronautique, l'espace, ce qui coûte fort cher. Gouvernement et état-major semblent l'avoir compris. Tout en passant sous silence, c'est assez remarquable, les armes nucléaires françaises et anglaises, qui restent encore un sujet tabou. Bien que la dissémination nucléaire hors d'Europe soit maintenant un fait acquis qui pèsera très lourd sur la politique mondiale dans les prochaines années. Quant au terrorisme, il impose à l'Europe un défi auquel les citoyens des différents pays européens ne lui permettront pas d'échapper. Mais l'Europe y est mal préparée et ses initiatives en la matière n'ont pas été convaincantes. Naturellement, le haut représentant de l'Union pour la paix, que s'est empressé de nommer un coordinateur de la lutte antiterroriste, lequel a été aussitôt mis au placard par les 5 ministres de l'Intérieur réunis le 18 octobre 2004 à Florence. La lutte contre le terrorisme, déclare le compte-rendu signé par les ministres français, allemands, anglais, espagnols et italiens, la lutte contre le terrorisme relève avant tout des ministres de l'Intérieur dont le rôle politique est prépondérant. Ils disposent de l'organisation Europol, basée à La Haye, qui est une organisation qui fonctionne fort bien, et demandent à la Commission de préparer une directive pour rapprocher et pour durcir les lois nationales permettant de combattre le terrorisme. L'Union devrait aussi encourager ses membres à des réactions plus solidaires. Pour changer de sujet, j'aborderai celui des langues européennes, qui sont un problème pour le Parlement et pour la Commission, et qui sont un souci pour la France. Au sein de l'Union, les dépenses linguistiques ont été, en 2004, de 686 millions d'euros, lorsque nous comptions 15 membres. Au budget de 2005 de l'Europe, ces dépenses linguistiques vont dépasser 1,2 milliard d'euros. Cette situation s'explique par le fait que, dès son origine, l'Union a fait le choix courageux et lourd de conséquences de donner un statut officiel à chaque langue, 20 aujourd'hui, au risque de construire une nouvelle tour de Babel. Et ce n'est pas fini, puisque le Premier ministre espagnol vient de demander, la semaine dernière, la reconnaissance comme langue de travail du basque, du catalan, du galicien et du valencien, et, m'a-t-on dit, il a de très bonnes chances d'avoir satisfaction. Dans la communauté à Neuf, en 1973, les règlements intérieurs prévoyaient trois langues de travail, le français, l'anglais et l'allemand. Les élargissements successifs ont renforcé l'anglais, ou plus exactement, le basic English de 300 à 500 mots. L'anglais, a dit Winston Churchill, c'est la langue la plus facile à parler mal. Je crois qu'il a raison. De 1997 à 2002, la rédaction dans les trois langues de travail fait apparaître que l'usage de l'anglais est passé de 40 à 73%, tandis que celui du français reculait de 40 à 18%, et celui de l'allemand se stabilisait autour de 8%. Ce qui comporte de sérieuses conséquences, car s'approprier la maîtrise d'une langue, c'est aussi acquérir un mécanisme nécessaire du pouvoir. Tel est le cas pour le texte des documents faisant foi. Une tradition diplomatique, aujourd'hui abandonnée, à laquelle Maurice Druon tente de redonner vie, voulait que ce fût le texte français. Désormais, les langues des signataires font toutes également foi, ce qui nous prépare des conflits d'interprétation absolument inextricables. Que pouvons-nous faire, nous, Français, pour que notre langue, qui est aussi celle des Belges et des Luxembourgeois, continue d'être pratiquée? Cela dépend d'abord de nous. Il est inadmissible que des parlementaires, des diplomates, des fonctionnaires internationaux français s'exprime en public dans une langue autre que la leur. Mais, d'un autre côté, nous devons apprendre et comprendre les langues de nos voisins, et pas seulement l'anglais, mais aussi l'allemand, l'espagnol ou l'italien, qui sont de grandes langues de culture. Le trilinguisme doit devenir notre règle. Enfin, nous devons enseigner le français aux autres. Les enquêtes réalisées auprès des 10 nouveaux États font apparaître que leurs parlementaires et leurs hauts fonctionnaires se déclarent anglophones pour 60 à 80% et seulement 5 à 7% francophones. L'Agence intergouvernementale de la francophonie a organisé l'apprentissage du français à Bruxelles chez les fonctionnaires européens et les diplomates des nouveaux États membres et, me dit-on, non sans succès. Le dernier problème dont je parlerai est celui de l'Europe sociale qui se présente sous un aspect nouveau, bien que prévisible. Aucun accord n'étant intervenu, Le projet de constitution laisse aux États la responsabilité de leur politique sociale, en vertu du principe de subsidiarité. On peut soutenir, d'ailleurs, qu'en la matière, une constitution peut se borner à poser quelques principes, mais le fait est que beaucoup de Français avaient mis en l'Europe leur espoir de progrès social et ils n'avaient pas été déçus. Tel fut le cas des agriculteurs, grâce à la politique agricole commune, dont l'inévitable réforme les inquiète aujourd'hui. Quant aux salariés de l'industrie et de certains grands services publics, la mondialisation qu'ils redoutent a été favorisée par la politique européenne de libre-échange, mais longtemps, ils ont gardé confiance dans la protection des lois nationales qui, espéraient-ils, pourraient en atténuer leurs effets. Ils sont en train de revenir de leurs illusions. Depuis la communication de Mme Nicole Notta au mois de mars dernier, la situation a radicalement changé. De grandes entreprises allemandes multinationales ont décidé de diminuer le coût de la main-d'œuvre nationale. Menacées par des délocalisations d'usines vers l'Europe de l'Est, leurs salariés, en Allemagne mais aussi en France, sont contraints de choisir entre suppression d'emplois et augmentation de la durée du travail sans compensation salariale. Le mouvement a commencé et il ne s'arrêtera pas. Naturellement, les gouvernements, les syndicats et même le patronat français condamnent haut et fort une pratique qu'ils traitent de chantage, mais personne ne voit comment, dans une économie libérale, ils pourraient s'y opposer, tout simplement parce qu'ils sont impuissants. Le fait est que l'harmonisation sociale européenne dont on parlait jadis, dont on ne parle plus aujourd'hui, n'est possible que si la croissance économique est soutenue et si les Français acceptent de travailler autant que leurs voisins. Ce n'est plus un problème européen, mais c'est un problème français. Avant même la création du marché commun, les premiers pas d'une union européenne, et je pense à la communauté européenne du charbon et de l'acier, ont été soutenus par la passion et la raison qui inspiraient la volonté générale de mettre fin aux terribles guerres qui avaient ruiné et abaissé l'Europe. Il existait alors une mystique européenne faite de promesses et de pardons, selon Hannah Arendt, qui a été citée ici même par Jacques Delors. Malheureusement, suivant une pente que Peggy avait dénoncée il y aura bientôt un siècle, dans des circonstances très différentes, cette mystique s'est dégradée en politique. En paix depuis 60 ans, une paix solide fondée sur le droit, l'Europe se comporte comme si elle n'avait plus d'autre but que de s'enrichir et de grossir. Non pas naturellement, car sa démographie est désastreuse, mais en s'élargissant comme une tache d'huile, tout en cherchant à s'organiser pour ne pas devenir impotente. Les 30 000 fonctionnaires de la Commission continuent de traiter les affaires économiques et financières de l'Union, celles qui touchent à la vie quotidienne. C'est nécessaire, souvent irritant, jamais exaltant, et toujours impuissante à ébranler le scepticisme des uns ou l'indifférence des autres. Les autres qui croient en l'Europe, mais à la manière de beaucoup de chrétiens qui croient sans pratiquer. Et l'abstention massive constatée dans tous les pays aux dernières élections du Parlement européen en témoigne. L'Europe ne vivra et ne se fortifiera qu'en faisant rêver, qu'en proposant de grandes aventures collectives. Et deux au moins sont à sa portée. La première, c'est la recherche scientifique et technique, ressort nécessaire du développement, de tout développement. Le domaine à découvrir est immense. Je devrais dire les domaines à découvrir sont immenses, en biologie bien sûr, mais aussi dans l'exploration des océans, dans la conquête de l'espace qui intéresse et passionne l'humanité tout entière. Et le second projet doit être la solidarité avec les plus misérables des hommes, partout dans le monde, mais particulièrement en Afrique, notre voisine, où la maladie, la famine, les guerres, les génocides exigent des interventions bien adaptées, depuis les aides et la coopération, jusqu'aux interventions militaires, s'il le faut pour maintenir ou rétablir la paix, en respectant ou pour faire respecter les droits de l'homme. Pour résoudre ou dépasser les problèmes qui s'accumulent, il faut que l'Europe inspire confiance aux Européens d'aujourd'hui, qui ne se réfèrent plus aux pères fondateurs, car ils ont une autre vie et ils ont d'autres soucis. Les textes de constitution ou de loi, les vœux et les discours, les mises en demeure ou les sanctions peuvent être nécessaires, mais ne convaincront pas. Les esprits et les cœurs ne seront gagnés, mobilisés, que par des projets concrets et ambitieux. Et en matière de conclusion, je poserai une question. En sommes-nous capables ?
La nouvelle problématique de la construction européenne, c'était une communication publique prononcée par le chancelier de l'Institut de France, M. Pierre Messmer, devant l'Académie des sciences morales et politiques le lundi 20 décembre 2004. Traditionnellement, après cette communication publique, l'intervenant, le communicant, répond aux questions des membres de l'Académie des sciences morales et politiques. Nous écoutons les réponses de M. Messmer aux différentes questions posées par ses confrères.
Monsieur Plantet a posé la question de la ratification. Or, je dirais ce que je pense qui va se passer dans le cas où il y aurait des refus de ratification. Si les refus de ratification viennent de petits pays, bien il se passera ce qu'on a déjà vu. On leur dira, mes amis, calmez-vous, et on vous invitera à un nouveau référendum dans 2 ou 3 ans. Et après avoir dit non, vous direz oui. Ça s'est passé, déjà, et il est vraisemblable que c'est ce qu'on reverra. Si c'est un grand pays, je pense à l'Angleterre, alors là, ça n'est pas possible de tenir ce raisonnement. Et ce qui est le plus vraisemblable, c'est que on dira aux Anglais, bien écoutez, dites tout ce qui vous déplaît dans cette Constitution, et ce qui vous déplaît, on ne vous l'appliquera pas. Alors les Anglais seront parfaitement heureux, et une fois de plus, ils auront roulé tous les autres. Je crois que c'est comme ça que ça se passera. Et j'ajoute que si c'était les Français qui disaient non, ce serait sans doute la même chose, on dirait aux Français, dites tout ce qui vous déplaît, et puis on ne vous l'appliquera pas. J'ai très peu de chances de me tromper dans le pronostic que je viens de faire. M. Bourgeois parle de la réconciliation des cultures. Moi, je comprends très bien. Et je ne suis pas du tout partisan du choc des cultures. Pas du tout. Mais pour qu'il y ait réconciliation des cultures, il faut que chacun ait la conscience de ce qu'il est
et de ce qu'ils veulent. Il ne s'agit pas de capituler et d'accepter n'importe quoi de la part des autres. Parce qu'à ce moment-là, ça n'est plus une réconciliation, c'est une capitulation. Si au nom de la réconciliation des cultures, on demande aux Européens, par exemple, de se convertir à l'islam, ben, c'est une réconciliation que je n'accepterai pas. Et je ne serai pas le seul. Et j'ajoute que nous ne demandons pas non plus aux musulmans de se convertir au christianisme. Pour se réconcilier, il faut être ce que l'on est. Il faut respecter la personnalité des autres, mais il faut exiger des autres qu'ils vous respectent. Malheureusement, ce n'est pas toujours le cas, et en particulier, les négociations européennes ne donnent pas toujours un très bon exemple de ce point de vue. Pourquoi ? Oh, parce que beaucoup de pays, parmi les nouveaux adhérents, se moquent profondément de la réconciliation des cultures. Ils ont, eux, une culture personnelle, et il est remarquable que les nouveaux adhérents ont un sentiment national souvent très fort. Et ils veulent qu'on les respecte, mais ils ne cherchent pas à imposer, ni même à composer avec les voisins. Mais, cela dit, M. Bourgeois a posé une véritable question sur l'avenir de l'Europe. Est-ce que l'Europe, au nom de l'universalisme et de la réconciliation des cultures, doit faire entrer tous les candidats à l'Europe, y compris s'ils respectent les conditions de Copenhague, les îles Fidji ou le Guatemala? Ma réponse est non. Je crois qu'il faut fixer des limites géographiques, des frontières. Monsieur Crozier a tout à fait raison de parler des choix pour l'avenir. Et pas seulement, il a raison de le dire, pas seulement de choix, je dirais programmatiques, mais de choix de politique générale, une politique de développement à long terme. Il faut dire que c'est de plus en plus difficile, car la plupart des nouveaux adhérents ne sont pas du tout portés sur le long terme, vous le savez très bien. Ce qu'ils attendent de l'Europe, c'est du court terme, et même du très court terme. Alors, les entraîner dans des réflexions à long terme, c'est nécessaire, mais ce ne sera pas facile. Général Forget a parlé, a interrogé sur le nucléaire. C'est un peu moi qui l'ai provoqué en en parlant moi-même. Je dirais simplement que, à l'heure actuelle, rien n'est changé, c'est-à-dire que l'Angleterre et la France sont totalement maîtres de leur armement nucléaire. Je dirais les Français plus que les Anglais, puisque les Anglais ont quand même des accords avec les Américains, en particulier pour la fourniture de matériel. Mais un jour viendra où le problème se posera, parce que nous avons tous vécu depuis la Deuxième Guerre mondiale dans la hantise de la dissémination nucléaire. Je rappelle que la loi McMahon aux États-Unis date de 1946, c'est-à-dire au lendemain de la guerre mondiale. La loi McMahon qui interdit la communication d'informations nucléaires à l'étranger. Et tous les pays qui ont accédé à l'armement nucléaire, après les États-Unis, était totalement d'accord avec eux sur la non-dissémination. Et la France s'était forcée elle-même de mettre un terme à un certain nombre de relations qui pouvaient être ambiguës à ce sujet. Mais le fait est que pendant 50 ans, en dehors des membres du Conseil permanent du Conseil de sécurité, plus Israël, il n'y a pas eu de dissémination, dans le fait. Maintenant, ça a changé. Tout a changé. L'Inde et le Pakistan, c'est fait. Israël, c'est déjà fait. Mais à l'heure actuelle, la Corée du Nord et l'Iran, c'est quasiment fait, en dépit de tout ce que l'on peut dire. Et c'est d'ailleurs ce qui explique l'extrême prudence des États-Unis dans les rapports avec la Corée du Nord et l'Iran, que l'on ne traite pas du tout comme l'Irak, parce que ça serait beaucoup plus dangereux. Au-delà, je ne vois pas comment il sera possible d'empêcher les Japonais de continuer dans cette direction et un certain nombre d'autres grands pays. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, la dissémination nucléaire est un fait, et un fait que les Américains ont déjà pris en compte, puisqu'ils ont changé leur stratégie nucléaire. Leur stratégie nucléaire n'est plus une stratégie de dissuasion, simplement, mais il y a maintenant aux États-Unis, en fabrication, des armes qui sont des armes de frappe préventive, nucléaire, frappe préventive. C'est-à-dire que le monde est en présence d'un problème nucléaire qui a changé complètement depuis quelques années non seulement de forme, mais de fond. Alors, si l'Europe veut se contenter de jouer la neutralité dans le monde et d'avoir la paix à l'intérieur de l'Europe, elle peut en effet se désintéresser des armes nucléaires et se contenter d'armes classiques plus ou moins perfectionnées. Mais si l'Europe a des ambitions mondiales, comme on nous disait tout à l'heure, et comme elle a le droit d'en avoir, et dans certains cas peut-être le devoir, alors là, l'Europe sera obligée de définir une stratégie nucléaire, et elle ne peut pas le faire sans l'Angleterre et sans la France. Voilà, mes derniers mots sont pour dire que nous sommes tous, nous avons tous été, je parle pour les hommes de ma génération, nous sommes encore de très ardents européens. Nous pensons vraiment, nous croyons, nous voulons la construction européenne. Mais la vérité est que maintenant, nous sommes en présence de difficultés telles, de problèmes tellement difficiles et qui s'accumulent sans trouver de solution, que le moment est venu de se demander quel est l'avenir de l'Europe.
C'était Monsieur le chancelier de l'Institut de France, Pierre Messmer, intervenant devant l'Académie des sciences morales et politiques en séance publique le lundi 20 décembre pour conclure la séance annuelle de travail de l'Académie consacrée à l'Europe. M. Messmer venu présenter une communication intitulée « La nouvelle problématique de la construction européenne ». Ainsi, s'était donc achevée l'année 2004. Une nouvelle année s'est ouverte à l'Académie des sciences morales et politiques le lundi 3 janvier avec un tout autre thème. Doit-on et peut-on faire confiance aux historiens tout au long de l'année 2005, la présidence de l'Académie des sciences morales et politiques étant assurée par M. Jean Tullard, eh bien, nous vous proposerons sur Canal Académie d'écouter les principaux communicants sur ce thème des historiens. Faut-il faire confiance aux historiens? Nous écouterons prochainement la première de ces communications de l'année 2005, une communication prononcée le lundi 3 janvier 2005 par M. Jean Béchler sur « Peut-on écrire une histoire universelle ?» La suite de votre programme dans un instant.